Donc, Fatou va nous parler de questionner sa pratique obstétricale.
D'accord, merci Madame la Présidente. Je me présente, bonjour à toutes et à tous. Je suis Fatoumata Ouattara, je suis anthropologue à l'Institut de recherche pour le développement. Et je suis à Ouagadougou, où j'essaie de faire de l'anthropologie. Alors, ma présentation a été intitulée dans le programme que vous avez, questionner sa pratique obstétricale. Comme vous savez, les TRITS contiennent ou énoncent souvent des contenus qu'on n'a pas l'intention ou qu'on n'a pas la possibilité de livrer. D'accord. Donc, j'ai ramené ça un tout petit peu à mon niveau, au propos que j'avais envie d'aborder avec vous. En fait, je vais vous parler de choses certainement moins douloureuses que ce que Drabo Seydou nous a évoqué tout à l'heure. Moi, je vais vous parler un tout petit peu de rencontres entre usagers et prestataires et comment, en fait, ce type de rencontre-là, suscité par la démarche anthropologique dans un contexte particulier, amène les uns et les autres à questionner des pratiques qui sont autour de la maternité, qui sont autour des pratiques, qui sont autour des discours des uns et des autres. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple dont je vais vous parler, une expérience d'activité de mon implication en tant qu'anthropologue dans un contexte particulier. Mon propos s'articulera autour de 5 petits points. D'abord, ce que recouvrent les mots, qu'est-ce que nous entendons avec l'évocation, rencontre usagée, prestataire, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces mots-là, mais de façon quand même rapide, l'idée n'est pas du tout de faire un cours magistral ou théorique sur ces questions-là. Et ensuite, je vais évoquer un tout petit peu le contexte d'intervention, de l'action, la méthodologie, comment ça s'est passé, tout ça, et les aspects qui ont été débattus, ce dont on a parlé, quels sont les points. Alors, juste, j'ai pris quelques points clés comme ça qui sont revenus au cours de ces rencontres-là, et c'est ce que je vais aborder. Et puis, enfin, deux questions que des spécialistes de santé publique m'auraient posées. Donc, je devance que c'est quoi l'impact. Et moi, au lieu de dire le gros mot impact, j'ai dit ben, quels sont les changements qui, à mon avis, qui ont été observés au cours de cette action. Donc, dès lors qu'on parle d'usagers, de rencontres entre usagers et prestataires, on a l'impression que les définitions qui vont dans ces termes vont de soi. À mon avis, ces termes nous interpellent. Ces termes appellent à un temps d'arrêt sur ce qu'on met en dessous. En tout cas, la notion d'usager, au-delà de l'appel d'une définition familière que nous avons du terme usager, je pense que on peut se référer à cette définition laminaire que j'ai prise chez Schweyer. Le terme d'usager traduit simplement un statut, celui de l'ayant droit à quelque chose, une relation potentielle, celle du partenaire dans la mise en œuvre de politiques publiques. Donc, on est au cœur de l'action publique. L'usager renvoie à un contexte politique qui fait de lui un bénéficiaire des droits et des créances et de droits civiques, mais aussi à une conception universaliste de ses droits. Donc, on est dans un rapport d'ayant droit et de définition à tendance universaliste qui suppose l'égalité et la neutralité de la prise en charge. Les prestataires de services, qui sont-ils? À défaut de définition précise retenue, on retiendra que ce sont des acteurs qui interviennent dans l'offre de services de santé, des prestataires de services, qui ont des statuts particuliers, définis, des rôles, des pratiques effectives, et que tout le monde ne fait pas tout à la fois, que les uns et les autres ont des attentes, des devoirs vis-à-vis des autres. Et Les relations entre usagers et prestataires de soins impliquent à tout le moins des relations de pouvoir. On peut se référer en tout cas aux travaux de Fredson, de Dingwall et ou de Fassin, plus proche de nous, pour des contextes, dans des contextes de recherche africains. Alors, on part d'un constat d'abord, un constat, je pense, qui est partagé par nous tous ici, un constat récurrent, en tout cas, des difficiles relations entre usagers et prestataires. Les personnels de santé qui se plaignent constamment d'usagers qui ne respectent pas leurs directives de prévention, que ce qu'on dit, ce qui recouvre la notion de prévention, ou ce qu'on attend des usagers par rapport à la prévention, au traitement, aux attitudes au sein d'une structure, ne vont pas de soi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et des usagers de leur part qui se plaignent du mauvais traitement par les personnels de santé, du mauvais accueil, de l'absence de dialogue, de la monétarisation des gestes techniques dès lors qu'on n'est pas dans un réseau d'interconnexion. Ou par exemple au Burkina, on a pu parler dans une de mes recherches, j'ai pu parler de réseau connaissances, amis, alliés. Une fois qu'on n'est pas dans une relation de connaissance avec un agent de santé, eh ben on peut avoir le risque que quelque chose n'aille pas bien. Des relations difficiles qui nuisent ou qui nuiraient en tout cas à une dimension fondamentale de la qualité des soins, quel que soit le moment où s'établit ce type de relation. Donc, on ne peut pas continuer sans avoir quelques références sur ces questions de relations usagers-prestataires. J'ai juste mis là, sur cette diapositive, quelques références. En tout cas, elles sont loin d'être exhaustive. Donc on a l'ouvrage édité par Yannick Jaffré et Olivier de Sardin, auquel certains d'entre nous ici ont contribué. On a Géocaisse qui a, pour le cas de l'Afrique du Sud, nous a éclairé sur ces types de relations. Vidal pour les cas pour la situation au Sénégal, et Cresson en tout cas dans des contextes français qui abordent ces questions d'usagers et de leur rapport à un espace public de délivrance de soins. Alors, on est, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on est dans des situations de connaissance, de recherche, et qui situent en tout cas l'anthropologue dans une situation où il est soit du côté, concrètement, du côté de l'usager, des usagers, ou du côté des prestataires de services pour recueillir des informations, de la matière en tout cas, sur ces aspects-là. Donc, on n'est pas encore dans une situation de rencontre de ces acteurs pour la production de sens sur des mots. Alors, ce que nous, on a essayé de faire en tout cas, c'est une disposition qui se situe dans une certaine nécessité d'accorder du temps à la discussion entre ceux qui recourent aux services de santé et ceux qui procurent les soins pour comprendre davantage les nœuds au cœur des interactions. Qu'est-ce qui fait nœud? Qu'est-ce qui pose problème quand les uns et les autres se rencontrent? Que disent-ils? Et de quoi parlent-ils au fait? Alors, c'était dans quel contexte? Comme Yannick l'a dit, c'est ce mot paresseux qu'on utilise pour parler très rapidement de quelle est l'occasion pour laquelle, au cours de laquelle, on a fait quelque chose. Ce contexte est ce qu'on appelle familièrement un contexte de recherche-action. À quoi sous, ici, il y a des voix beaucoup mieux placées que moi pour parler de à quoi sous, tant et si bien ils ont été des acteurs pour la mise en œuvre de ce programme de recherche dont, que certains d'entre vous connaissent ici. L'amélioration de la qualité de l'accès aux soins obstétricaux d'urgence est financée par le MAE de 2003 à 2006. et compter justification d'une intervention qui partait de l'initiative ou d'enquête quantitative sur la mortalité maternelle dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et qui se basait aussi sur un certain nombre de postulats qu'on a rappelés ici depuis avant-hier. Donc, je pense pas que ce soit nécessaire de revenir sur ces postulats partagés, en tout cas dans un certain milieu. Et alors, sur ce programme, sur cette initiative de recherche-action composée de 4 volets, on avait une composante du projet qui s'intéressait particulièrement à l'amélioration de l'accessibilité financière, socioculturelle et géographique à des soins obstétricaux de qualité. Et dans ces volets, on était censé contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des districts. C'était pas du tout les anthropologues qui faisaient ça. À un volet information, mobilisation des acteurs locaux et de la population. Et un volet relations soignants-soignés. J'aurais dû mettre ce dernier volet en rouge. C'est le volet sur lequel apportait l'organisation de ces rencontres. Alors, les bénéficiaires directs, c'était les femmes et les nouveau-nés, faire en sorte qu'elles aillent mieux, qu'elles soient satisfaites en tout cas, et que les personnels de santé aussi en tirent bénéfice d'un point de vue technique, mais aussi point de vue ressenti par rapport à la pratique, en tout cas, tout au long de leur exercice quotidien. Alors, donc il s'agissait de travailler dans l'aire d'un district sanitaire du Burkina, qui est à cheval sur une population urbaine et population rurale, des structures sanitaires du secteur public, secteur privé, confessionnel, un centre de référence de niveau intermédiaire, qu'on appelle un centre médical avec antenne chirurgicale, et des centres de soins et de promotion sociale offrant des CPN et 19 et disposant de maternité. Alors, en quoi consistait le rôle de l'anthropologue? Le rôle de l'anthropologue consistait à la fois à produire des connaissances pour contribuer à une meilleure connaissance des contraintes des différents acteurs et à opérer dans un rayon de médiation, à faire de la médiation pour un espace de dialogue entre population et personnel de santé. Donc, une implication des activités de l'anthropologue qui laisse ici peu de place à la distinction rappelée souvent dans nos milieux entre une anthropologie fondamentale et une anthropologie appliquée. J'avoue pour ma part que il arrive un moment où tu ne sais plus si tu te fais du fondamental ou de l'appliqué, tu sais simplement que tu es impliqué dans une activité et que tu dois faire avec les autres et non pas sur les autres forcément. Donc, il s'agissait là de documenter des plaintes formulées par des personnels, par des usagers, et de construire des espaces et des modalités de dialogue. Alors, de quelle manière, alors en termes méthodologiques, comment ça s'est passé? Alors, je pense que la méthodologie, elle n'était pas du tout figée. C'est pour ça que j'ai mis ici méthodologie bricolée et progressive. On a marché, on a fonctionné à tatillons, de façon vraiment délicate, et ça a posteriori qu'on essaie de comprendre un peu comment on a procédé. Je sais que un des premiers moments, c'était ce que nous avons fait au cours de ce qu'on appelle l'analyse situationnelle, qui consistait à réaliser des entretiens auprès des femmes et des personnels de santé pour recueillir des discours, pour déterminer, identifier des contraintes inhérentes à l'organisation des structures de soins, et qu'ensuite, le temps 2 a consisté à une restitution de cette analyse situationnelle aux soignants pour passer de ces actes de connaissance à des pistes d'action pouvant en tout cas contribuer à l'amélioration de ces relations. Un temps 3 a consisté à l'organisation des rencontres de groupe avec des femmes uniquement, et des femmes qui consultaient dans des formations sanitaires. C'est-à-dire il s'agissait de revoir, de rencontrer les femmes à la sortie des consultations et de planifier avec elles et d'expliquer, de leur expliquer qu'on avait envie d'organiser des rencontres de groupe en dehors des structures de santé. Et cela a été fait. Et on est arrivé, en tout cas, à une situation, à l'issue de ces premières rencontres de groupe, à des souhaits émis par des groupes de femmes qui étaient récurrents, des souhaits de pouvoir échanger avec les personnels de santé pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, est-ce qu'on se comprend, est-ce qu'on parle des mêmes choses, de quoi parlons-nous finalement. Et une méthodologie en quatrième temps qui a consisté à organiser des rencontres de groupe avec les usagers et avec des prestataires de soins, l'identification des femmes qui s'est faite par le biais des associations, c'est-à-dire là, il fallait plus aller à la sortie des consultations, mais on allait dans des aires proches des formations sanitaires et on voyait, on rencontrait des responsables d'associations avec un temps où on s'attardait à expliquer la démarche, le contenu du projet, qu'est-ce qu'on recherchait finalement et où on en était. Et quand on a pu mettre en place ces rencontres, l'animation était faite par une sage-femme. Alors, le repérage dans les associations, ça s'était fait par les spécialistes de mobilisation sociale. Et les anthropologues s'attelaient à identifier des thèmes de discussion à partir des rencontres qui avaient été organisées précédemment. Et pour les rencontres, des mots introductifs, en tout cas, qui n'étaient pas juste des questions de forme, mais c'était vraiment lié à la méthodologie, on y tenait. C'était cette façon d'expliquer, parce que on s'était bien rendu compte, on voyait et c'était sensible, cette méfiance qui s'était installée, ou on ne sait pas à partir de quand ça s'était installé, entre les usagers et le personnel de santé. Et donc il fallait, par exemple, pour la sage-femme, amener à poser tranquillement le cadre de la discussion, des mots introductifs qui rappelaient par des phrases qui pouvaient détendre l'atmosphère, genre le chien ne sent pas l'odeur de sa tête, c'est-à-dire que vous êtes là et si quelqu'un d'autre ne vient pas vous expliquer, en tout cas titiller ce que vous êtes en train de faire, qui est incorporé dans votre manière d'être, vous ne pourrez pas changer. Ou bien la vache peut piétiner le veau dans la pénombre. C'est-à-dire que on peut, si on n'a pas, on s'arme pas les garde-fous, alors on peut se tromper, la capacité de tout être humain de se tromper, et qu'il y a nécessité de langage, de discussion avec les autres. Alors, là, on a une rencontre de groupe, une photo, c'est marqué choc, c'est le tout hasard. C'était des rencontres qui étaient organisées complètement à l'extérieur des centres de santé et on évitait les endroits fortement administratifs pour, et évidemment, poser ce discours apaisé, ce discours informel aussi entre les uns et les autres. Alors, en amont de ces rencontres entre usagers, qu'est-ce qu'on a ? On avait, dans les premières rencontres de groupe qu'on avait eues avec les femmes, des discours qui étaient plutôt nuancés sur les pratiques des personnels de santé. Oui, d'une structure à l'autre, ça peut changer. Oui, ils sont comme ça, mais d'un endroit à l'autre, ça change. D'un personnel de santé à un autre, ça peut changer. Ils ne sont pas tous comme ça. Tout est fondé sur l'expérience. Il n'y a que l'expérience individuelle qui rencontre des situations. Que le manque de dialogue, d'explication sur les prescriptions médicales était là et qu'on payait par exemple des sommes qui n'étaient pas forcément expliquées et qu'il y avait une demande, en tout cas il y avait une demande explicite de participation ou de demande de personnel de santé qu'il soit là. Et du côté des personnels de santé, on avait cette méconnaissance, alors j'hésitais avant d'écrire ce mot-là, mais autant on a une proximité géographique, autant on a cette distance sociale entre certains personnels de santé et des usagers par rapport à des conditions de vie. Et il y avait vraiment une méconnaissance absolue des conditions dans lesquelles ils vivaient. Il y a un discours contradictoire à propos du manque de moyens qui était une trame transversale des usagers. Oui, il n'y a pas les moyens, mais ils arrivent à payer quand on leur demande de payer. Des propos culpabilisants, certaines femmes sur la solitude sociale. Oui, ils doivent venir, mais une femme, les accompagnants sont nuisibles, par exemple, mais une femme qui vient seule pour accoucher à la maternité, voilà, elle ne s'est pas bien vue. Ça veut dire qu'elle s'est arrangée, elle n'a pas bien fait dans son entourage social pour pouvoir venir soit avec un homme ou avec son voisin à la limite. Venir seule pour accoucher, franchement, il y avait des espaces, en tout cas, dans la maternité où la solitude était critiquée et les femmes étaient dans ces situations, étaient culpabilisées. Donc, aussi un discours d'homogénéisation des usagers de santé, c'est-à-dire le « ils » qui revient. Ils sont ci, ils sont ça. Alors, ces thèmes de discussion renvoyaient à des aspects positifs. On les construisait sur l'évocation d'aspects positifs dans l'accès aux soins de la maternité. Qu'est-ce qui vous convient ? Et pour les usagers, pour les personnels de santé, quels sont les aspects qui ne vous conviennent pas? Comment s'organise le recours aux formations sanitaires? Comment vous vous prenez? Quels sont les justificatifs des accouchements à domicile qui avaient été rappelés aussi bien par les usagers et que par les prestataires de soins? Et quels sont les acteurs et les coûts financiers de la grossesse et de l'accouchement? Et quel type d'amélioration souhaitée pour une prise en charge efficace? Les aspects positifs, on a là des discours plutôt nuancés, je l'ai déjà dit. Tu peux rencontrer une personne qui va s'occuper de toi, elle va te flatter, elle va te dire de tenir bon, que tout va bien se passer, cette façon te rend heureuse. Comme si le fait que ça se passe bien, c'était un ressenti, après tout, qui était détaché du contexte du geste purement technique et qui faisait qu'on était content. On sort de là, on est content. Des marques de considération. Alors, on m'a regardé, on m'a pas regardé comme les autres, on m'a singularisé de façon plutôt positive. Ils m'ont beaucoup considéré, ils m'ont aidé. Alors, je vous ai mis là un extrait de récit, le récit d'une femme. Je ne savais pas que je devais accoucher. Je suis allée à vélo pour voir la femme. Quand je suis arrivée, la sage-femme m'a dit que je ne pouvais plus repartir à la maison. Je n'avais rien. Je suis sortie sans argent, sans médicaments, mais elle s'est occupée de moi. Elle m'a aidée à accoucher. Et quand j'ai demandé combien je devais payer, elle a dit de laisser. Elle a pris. Je suis contente. Et vous voyez là, en tout cas, l'inscription de la satisfaction sur quelque chose qui n'est pas, en tout cas, relié au geste technique, mais au coup, au regard sur soi, sur l'être. Pour les soignants, les attentes relatives aux catégories du savoir-vivre sont rappelées. Alors, on attend, les personnels de santé disent attendre du respect pour leur âge. On m'a appelée Tanti, donc là, une femme qui arrive et qui m'appelle Tanti, ça veut dire que quelque chose, que ça va, quoi. Je suis bien vue, de la politesse, tu arrives, tu dis bonjour, et celles qui arrivent qui disent pas bonjour, ah ben c'est mal, ça ne va pas. On m'a pas considérée. De la reconnaissance par l'offre de cadeaux. Je me suis bien occupée d'elle, ou en tout cas, je ne savais pas que je m'étais bien occupée d'elle, mais après la rencontre, elle est revenue avec un cadeau, ou l'obéissance des consignes de soignants, l'obéissance technique, j'ai dit de faire quelque chose, et elle l'a fait. J'ai donné rendez-vous, elle est venue le jour du rendez-vous. Même si je n'étais pas là le jour du rendez-vous, elle est quand même venue. Alors, un des points qui est ressorti de ces débats concerne l'accueil et la violence. Quelque chose qui est flottant comme ça. Et du côté des usagers, on a, je l'ai dit, je vais me répéter, donc c'est pas la peine de répéter. Et à propos de la violence, ce qu'on peut retenir, c'est que, de l'accueil du moins, c'est que ces rapports féminins, ces rapports entre usagers et prestataires sont ramenés après tout à des rapports entre femmes. On a ce propos qui est revenu assez souvent, qui disait, nous sommes finalement des co-épouses. Eh bien, les co-épouses, c'est comme ça. Quand vous vous levez à la maison, il y a des jours où vous êtes content, vous vous parlez. Tous les jours, c'est pas la bataille. Et il y a des jours où vous vous saluez, il y a des jours où vous vous saluez pas. Bon, l'essentiel, c'est d'essayer de voir comment vous pouvez faire en sorte pour garder les choses. À propos de la violence, elle était critiquée d'un côté de la part des usagers, de pourquoi finalement il y a cette violence, pourquoi il y a cette culpabilisation des multiparts dans la maternité, et pourquoi les hommes personnels de santé qui n'ont pas l'expérience de l'accouchement ont tendance à être plutôt gentils dans la salle d'accouchement. Donc, et de l'autre côté, en réponse ou en réaction, c'était des justificatifs de cette violence. On crie parce que on veut sauver. La justification du geste technique, de l'urgence. L'urgence qui rend une certaine violence obligatoire. L'accouchement fait mal, ou alors la caractéristique fondamentale de l'accouchement qui la rend douloureuse et qui la rend féminine et qui devrait être supportée comme telle. Sur les CPN, qu'est-ce qu'on peut retenir des débats sur les CPN, de pourquoi vous ne venez pas au CPN, pourquoi vous ne venez pas régulièrement au CPN, et pourquoi nous ne venons pas régulièrement au CPN, pourquoi nous ne suivons pas les prescriptions qui sont faites. Il y a deux aspects qui ressortent. C'est cette attente sociale, ce devoir social du coût des soins, qui n'est pas seulement attribué au CPN, mais à l'ensemble des soins en maternité, que ce sont les hommes, on attend que ce soit un devoir d'homme, ce sont les hommes qui doivent payer. Et ça, c'est la norme sociale. L'homme, son devoir, c'est de donner l'argent. Même si la femme en a, c'est l'homme qui doit donner l'argent. Mais finalement, ça rentre aussi dans des situations de négociation entre les hommes et les femmes à la maison. Une femme qui sait que même son mari a l'argent, le matin quand elle doit aller à la CPN, eh bien, elle fait en sorte pour négocier son billet. Même si elle a entendu dire que la CPN est gratuite, c'est faire en sorte pour négocier cet argent, comme si elle négociait l'argent pour aller au marché, le 2000 francs, le 5000 francs. Alors, du coup, le coût de la CPN, l'information sur le coût n'est jamais fixe, n'est jamais claire entre hommes et femmes. Tout se passe sur des bases de négociation. Et des femmes, concrètement, dans des situations pratiques, qui disent s'abstenir, qui s'abstiennent de contribuer aux soins de maternité, parce que finalement, bon, c'est quelque chose que l'homme doit faire. Et des femmes qui, en situation, dans des contextes urbains, où on a des hommes qui ne sont pas toujours aptes à payer dans des contextes de chômage, qui s'arrangent pour donner elles-mêmes l'argent au mari, en tout cas, surtout pour la maternité, quand ils arrivent à la maternité pour accoucher, elles donnent l'argent à l'homme pour qu'il puisse payer à la sage-femme. Alors, sur les raisons de l'accouchement à domicile, on a des difficultés financières qui ont été évoquées, certes, une inaccessibilité géographique, la rapidité du travail, une pression familiale subie par les primipares pour retarder le recours à la maternité, la crainte d'être grondée à l'accouchement du fait de ne pas avoir suivi des CPN, parce qu'on n'a pas suivi régulièrement la CPN, donc on reste à la maison, l'insatisfaction de la prise en charge médicale des accouchements antérieurs. On a accouché à la maternité une fois, je juge que ça s'est mal passé, donc la fois d'après, ce n'est pas la peine d'aller à la maternité. La problématique des accompagnants, question clé dans les débats. Pour les soignants, les accompagnants sont certes utiles, mais ils sont trop nombreux. Ils entravent la bonne livraison des services par des conduites inappropriées. Et pour les femmes, le choix et le nombre des accompagnants ne dépendent pas d'elles. Il s'agit d'un choix imposé à la maison par les hommes, des femmes plus âgées et d'un impératif social pour anticiper un risque d'accusation. Tu as ta voisine qui va à la maternité, si en périurbain, si tu ne t'actives pas pour l'accompagner et qu'il se passe quelque chose, on va t'accuser. Tu risques d'être accusé comme de sorcellerie. En tout cas, tu as quelque chose à voir dedans. Donc, on anticipe. Là, ça se passe plutôt dans les zones périurbaines. J'accélère. Donc, Ce qui ressort là, c'est une incapacité, en tout cas pour les femmes qui vont accoucher, à identifier les accompagnants et à réduire leur nombre, qui suscite une crainte d'indiscrétion partagée par les femmes et par les personnels de santé sur le risque que ces accompagnants en pléthore soient aussi ces femmes qui puissent divulguer des situations qui se sont passées à la maternité pendant l'accouchement. Alors, questions évoquées pendant ces débats, des questions qui ont trait à des rumeurs qui circulent et qui n'avaient pas eu l'occasion d'être évoquées. Par exemple, cette rumeur qui par rapport à l'excision des filles à la naissance, qui était largement répandue dans ce district, et à chacune de ces groupes de discussion, il s'est passé un moment, en tout cas, sur pour les personnels de santé, à rassurer les femmes qu'il n'en était rien, autrement que les filles qui naissaient dans les maternités n'étaient pas du tout excisées, et que les hommes, je ne l'ai pas précisé, mais il est arrivé dans la progression de l'organisation de ces rencontres, un moment où les hommes nous ont rejoints, où on a fait appel aux hommes parce que cela s'imposait. Alors l'offre, les questions étaient là, se ramener à l'offre des méthodes contraceptives aux femmes qui entraînent un risque d'infidélité de leur part en attribuant un pouvoir dans la sexualité aux femmes. Donc, il y avait la question de la gratuité discontinue qui a été évoquée. Alors, sur la nature des changements qui ont été certes induits par l'intervention des anthropologues et des changements qui ont été impulsés aussi par l'intervention des anthropologues et relayés par la santé publique. Un impact difficilement mesurable avec ce type d'intervention, on va être très, ce n'est pas au bout d'une dizaine de rencontres organisées qu'on peut prétendre à un impact positif réel sur ces types de questions. Un temps d'échange en tout cas qui a permis l'accès à l'information de la part des acteurs, de la justification de certaines pratiques, des incidences des pratiques, de l'accueil qui n'est pas une disposition théorique mais une disposition pratique. Des propositions de résolution qui ont été prises par moment sur le travail du choix des accompagnants, sur l'inclusion des risques associés aux accouchements à domicile à l'occasion des rencontres de groupes qui sont organisées dans les structures de soins par les personnels de santé à l'occasion des consultations prénatales, et que cette seule activité d'organisation des rencontres usagers prestataires, elle n'était pas suffisante. Elle a été associée à d'autres types d'activités comme les audits, comme l'entretien au domicile des parturientes en compagnie des femmes. Et donc, voilà une situation où on peut percevoir tout le moins, en tout cas de façon modeste, la construction d'un espace de redevabilité des uns par rapport aux autres, un lieu de décryptage des incidences sociales de ces pratiques, une situation, en tout cas une occasion qui met en évidence la pluralité des usagers et une occasion qui amène à participer, l'anthropologue à participer, à produire du sens aux mots des usagers et des personnels de santé pour comprendre davantage comment ils définissent la qualité des soins, parce que c'est cette notion de qualité de soins qui semble fondamentale dans ce type de rencontres qui ont été organisées. Voilà comment l'anthropologue s'est situé à cheval sur la compréhension, la connaissance et l'implication dans l'activité. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Madame Fatou. Vous avez largement dépassé votre temps. Je voulais juste rappeler que Mme Fatou est anthropologue à l'Institut de recherche de développement au Burkina Faso et qu'elle travaille sur les questions associées à la santé de la reproduction, santé maternelle et VIH, et qu'elle collabore aussi sur des projets de recherche-action sur la pluridisciplinarité. Donc, merci Fatou pour cette présentation.